Et à 7h42 sur France Culture, on va vous faire entendre un son que vous avez tourné, comme on dit dans notre jargon, Véronique, que vous avez enregistré. Le voici, ce son. On dirait une sirène. Qu'est-ce que cette sirène ? Eh ben, pour le savoir, on va poser la question à nos deux invités, Dominique Fresneau. Bonjour, vous êtes co-président de l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport. J'y suis arrivé.
Tout à fait, oui.
La CIPA, hein, c'est comme
oui,
ça qu'on dit ça.
Bonjour.
Et puis, à côté, Camille qui s'appelle Jean, ce matin. Bonjour, Jean.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
Une sirène qui a résonné lors d'une fête pour l'inauguration d'un phare, ici même en fait, ici même ou en lieu et place de ce phare qui a été construit l'année dernière, il aurait dû y avoir la tour de contrôle de l'aéroport, si cet aéroport s'était construit, s'il se construisait un jour, mais vu qu'il ne se construira pas, on s'est dit par ironie, par pied de nez, qu'on pourrait y construire une tour qui permettrait d'observer le bocage qui a été préservé, qui est magnifique, et la sirène, évidemment, on s'est dit, parce qu'on s'est habitué à vivre avec la menace au fil des années, avec l'idée qu'un jour des travaux pourraient démarrer, avec l'idée qu'un jour le gouvernement pourrait revenir évacuer. C'était une menace très concrète, puisque en 2012, quand plus d'un millier de policiers sont venus sur le terrain pour
opération
tenter d'évacuer,
César.
Lors de l'opération César, il y a
Et
une
vous,
résistance.
Vous étiez Astérix.
Plus ou moins, ouais, on était plein d'Astérix.
Obélix, vous voulez que je dise?
Pourquoi pas? On était plein et très, très divers, en tout cas. Et à ce moment-là, effectivement, il y a une résistance qui a été victorieuse. Depuis, on vivait avec cette menace-là. Après, la sirène, on espère qu'elle n'aura jamais à résonner pour une reprise d'évacuation et de démarrage des travaux, mais qu'elle pourra continuer à résonner lors de fêtes, lors d'assemblées, lors de moments un peu importants qu'on aurait envie de célébrer ensemble.
Vous avez dit, il y a quelques instants, Jean, qu'il n'y aurait pas d'aéroport. On n'en sait rien, parce qu'on attend la décision. Il paraît qu'hier soir, il y avait une réunion à Matignon, quelque chose comme ça.
Ça fait des années qu'ils font des réunions à Matignon pour décider s'ils feraient ou pas cet aéroport. Nous, en tout cas, on a pris notre parti dans cette affaire. On s'est dit que l'aéroport n'aurait pas lieu. Et malgré la menace, on a décidé de construire ici un projet d'avenir qui n'est pas en projet, qui est d'ores et déjà là. Et
qui est là autour de nous.
Autour de nous, on est dans une bibliothèque. Autour de nous, il y a tout un tas de lieux de vie, d'activités qui se soucient de se prolonger, de se densifier, de continuer à s'ouvrir.
Je vais vous poser une question, Dominique Fresneau, qui va vous faire sourire. Pourquoi ne faut-il pas un aéroport ici, hein ?
Bien, tout simplement parce que ici il y a une activité agricole depuis des années, parce qu'il n'y a pas besoin d'un nouvel aéroport. C'est surtout ça. La première chose, c'est est-ce qu'on peut faire autrement ? Eh bien, là, pour une fois, il y a eu un début de réflexion de la part de l'État pour savoir si on pouvait faire autrement. Eh bien, on peut faire autrement, on peut réaménager Nantes Atlantique, qui est l'aéroport actuel, et donc ne pas faire Notre-Dame-des-Landes, chose qu'on défend depuis des dizaines d'années.
Des dizaines d'années, parce qu'en fait, c'est une lutte très ancienne. Vous, vous êtes né sur la ZAD, Dominique.
Je suis né ici, il y a bientôt une soixantaine d'années, et donc voilà, moi, depuis à l'âge de 12 ans, j'ai appris qu'il y aurait un aéroport sur la ferme de mes parents, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais accepté, puisque il n'y avait pas déjà à l'époque l'utilité publique au sens noble du terme.
Alors, on peut refaire l'histoire, mais l'un des arguments des opposants à l'aéroport dont vous êtes consiste à dire, en fait, on peut augmenter la productivité de l'aéroport existant sur cette surface-là, parce qu'il y a un lien entre le nombre d'avions qui atterrissent et la surface d'un aéroport, sur cette surface-là, on peut en faire atterrir plus, comme par exemple à Genève.
Oui, on a des exemples, Genève, Gatwick, par exemple, qui est à 35 millions de passagers sur une même surface que Nantes Atlantique. C'est vraiment une question d'optimisation de l'espace et de pas gaspiller 1650 hectares de terres agricoles. Et puis ça, c'est l'emprise aéroportuaire. On parle pas des constructions qui vont en général autour.
Les nuisances sur la ville de Nantes, parce qu'on explique aussi qu'il faut un aéroport dans le bocage, parce que là, il est trop près de Nantes et que du coup, il y a des nuisances sur la ville.
Alors, il y avait des possibilités déjà il y a quelques années de pouvoir déplacer la piste et de la mettre dans un autre sens pour pas qu'elle gêne la ville. Ça n'a pas été un choix puisque il y avait cette possibilité de faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes qui a bloqué, on va dire, toutes les restructurations de l'aéroport de Nantes Atlantique actuel. Il n'y a même pas eu de travaux de fait. Et puis bon, voilà, un aéroport, il y en a auprès de chaque ville et comment on fait ? Il y aura toujours des gens qui seront gênés par un aéroport, ou alors on n'en fait pas. Et puis peut-être qu'il faudrait aussi revoir le transport aérien et puis le limiter à ce qu'il doit servir, c'est-à-dire qu'on arrête ces sauts de puces qui font moins de 200 km et qui mettent en plus en danger d'autres transports, transport ferroviaire par exemple, qui n'est en concurrence en mauvaise concurrence, on va dire.
Donc ça, c'est pour l'opposition à l'aéroport, pour votre décision, Jean, de rejoindre ce lieu. Vous n'êtes pas né ici, et vous êtes jeune. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il fallait que vous soyez là ?
Eh ben, déjà, une invitation. Moi, je fais partie de la génération de personnes qui sont arrivées à partir de 2007 parce qu'il y avait des habitants qui étaient ici et qui voyaient certaines fermes, certains habitants partir sous la pression du projet d'aéroport, et qui se sont dit, on va pas pouvoir continuer à défendre ce territoire si on reste seul ici, si les maisons se vident, etc. Donc, ils ont fait un appel pour être rejoints. Moi, j'avais pu participer dans ma vie à diverses expériences d'autogestion à plus petite échelle, à des mouvements sociaux, à des solidarités avec des demandeurs d'asile, à des luttes aussi pour protéger d'ores et déjà des espaces menacés, un quartier maraîcher, etc. Et puis, à un moment donné, comme bien d'autres, je suis venu participer à certaines actions pour empêcher les premiers forages, physiquement, se dire c'est pas possible de laisser se faire les travaux préliminaires, à certaines manifestations pour installer un projet maraîcher ici. Et puis, il y a eu le moment de l'opération César. On a été des milliers qui n'habitaient pas forcément là avant, à se dire qu'il se passait là quelque chose de tout à fait bouleversant, c'est-à-dire qu'on entend souvent qu'il y a une fatalité, même quand des gens luttent pour des résistances légitimes contre le saccage de la planète, qui aura une fatalité à ce que, au final, les tractopelles, la police finissent par être victorieux. Et là, c'est le contraire qui s'est passé, et ça a permis, et ce n'était pas le fait, contrairement à ce qu'on voudrait parfois faire croire d'une quelconque avant-garde combattante de quelques personnes, nous a dit, non, c'était des milliers de personnes très différentes. On a passé des nuits derrière des barricades avec des paysans, avec tout un tas de riverains, et il s'est passé quelque chose de tout à fait bouleversant qui m'a donné la conviction qu'il fallait rester là.
Véronique Robérod, vous suivez Notre-Dame-des-Landes pour la rédaction. Vous étiez là pour César. Vous voulez intervenir?
Non, juste cette cohabitation entre agriculteurs historiques que vous représentez ce matin, Dominique Fresneau, et puis les zadistes qui sont arrivés, elle a été évidente dès le début, ou elle continue déjà à être compliquée? C'est pas facile.
Ici, à Notre-Dame-des-Landes, c'est une micro-société, donc avec toutes ses difficultés, mais en même temps, toutes ses richesses. C'est-à-dire qu'ici... On a vite compris que de toute façon, on ne pouvait pas occuper complètement le terrain. C'est-à-dire qu'il était occupé paysannement. C'est-à-dire que toutes les parcelles étaient cultivées. Mais d'un point de vue personne, quand le projet d'aéroport a été créé, en fait, il y avait une centaine de paysans sur la ZAD. Et depuis, comme partout, les paysans sont partis. Il ne restait plus qu'une trentaine de paysans qui étaient concernés par le projet d'aéroport. Et du coup, il fallait aussi occuper le terrain. Et c'était cet appel en 2009-2010 qui a permis, d'avoir de nouvelles personnes qui sont venues et qui se sont... Alors, il y a eu des heurts parce qu'il y a eu des incompréhensions. On a deux mondes différents, le monde agricole et un monde qui est beaucoup plus ouvert et qui, plus jeune, mais aussi en moyenne, et qui avait d'autres attentes, d'autres visions aussi d'un monde meilleur.
Et alors aujourd'hui, comment ça se passe, la cohabitation entre...
Et on a appris à se connaître. Et en 10 ans, on a appris, pour la plupart, c'est tous des voisins, puisque on se connaît maintenant depuis plusieurs années, et on arrive à construire des choses. On a beaucoup de discussions, on a eu beaucoup de rencontres. On se connaît déjà aussi beaucoup mieux, et ça apaise beaucoup de tensions.
Jean, à ce sujet ?
Je parlais des rencontres, par exemple, qui se sont faites au moment de l'opération César, derrière les barricades, quand des paysans sont venus enchaîner leurs tracteurs, qu'on passait des nuits ensemble, à se dire peut-être qu'à un moment l'État va se retirer, que la police va se retirer, qu'est-ce qu'on fera après ? Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a tout un tas de nouveaux projets qui ont germé. Aujourd'hui, on met en culture ensemble, collectivement, quasi 300 hectares de terre sur le territoire. C'est tout un tas de projets agricoles différents. En bonne partie, ces projets, ils sont menés à bien avec des paysans de la région, qui sont solidaires, qui viennent régulièrement ici, avec qui il y a des échanges sur les perspectives paysannes, sur les perspectives agricoles. Il y a tout un tas de projets qui se font aussi avec des charpentiers, avec des élagueurs du coin, sur repenser la forêt à l'avenir. Et puis aussi des liens qui se font avec des syndicalistes nantais qui viennent nous aider à faire de la cartographie ici, etc. Donc il faut imaginer qu'on vit dans une zone...
La cartographie.
La cartographie, parce que ça nous semble important de comprendre le territoire sur lequel on habite, autant d'un point de vue naturaliste que d'un point de vue foncier à divers niveaux. Donc il y a des gens qui ont des connaissances diverses et variées. Tout comme ici, on est dans une bibliothèque où il y a d'anciens documentalistes ou bibliothécaires nantais qui très régulièrement viennent participer. Et la manière dont on pense l'avenir de ce territoire, c'est ça aussi, c'est d'inclure tous les usagers actuel et que ça reste un territoire d'expérimentation sociale.
Justement, on va parler du foncier parce que autour de là où nous sommes, c'est-à-dire au cœur de cette ZAD, alors il y a différents lieux, il y a des agriculteurs qui sont restés dans leur ferme parce qu'ils ne voulaient pas bouger, et puis donc il y a Vinci, c'est donc cette société qui est censée construire l'aéroport, qui elle a aujourd'hui des terres qui ont été acheté à certains agriculteurs et qui donne un certain nombre de baux à des agriculteurs qui cependant ont été expropriés. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui. Expliquez-nous à qui elle appartient cette terre qui est autour de nous, Dominique Frénaud.
Alors si on divise un petit peu ces 1650 hectares, il y en a à peu près 400 qui sont cultivés par des historiques qui ont résisté et qui sont à l'expropriation.
Alors eux, ils n'ont pas bougé, donc c'est clair.
Voilà, ils vont à un moment donné, l'argent est bloqué sur le compte des dépôts et consignations. Eh bien, cet argent sera repris par Vinci ou par l'État, parce que je sais pas, vu que c'est quand même l'État qui est propriétaire, je sais pas comment ça se jouera à ce moment-là.
Il y aura ça, c'est la portion.
Il y aura un jugement.
Le reste,
eh bien, il reste 400 hectares de chemin, de haies, de forêts, de bois et tout ça. Et puis si on prend le reste, il reste 800 hectares qui sont redistribués en baux précaires tous les ans.
Alors c'est ça qui en fait pose problème, parce qu'on se dit que cette terre, elle appartient forcément à quelqu'un. Et alors si ce quelqu'un, il n'est pas dessus, c'est que la terre, elle est occupée de manière illégale, Jean.
De manière illégale, de toute façon, de fait, oui, parce que ça fait presque 40 ans que cette zone est mise sous cloche, qu'on n'a pas le droit de s'y installer, de s'y projeter légalement, que tous les habitants historiques officiels eux-mêmes sont devenus squatteurs. Après, de fait, illégal peut-être, mais légitime en tout cas à notre sens, au sens où ce qui se, il y a plusieurs centaines d'hectares, comme je le disais, qui sont mis en culture collectivement, et il y a des hectares, plusieurs autres centaines qui vont se libérer si le projet d'aéroport est bel et bien abandonné, ce qu'on souhaite. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura un questionnement sur ce que deviendront ces hectares libérés. La proposition qui est faite par le mouvement, ce qu'on porte, c'est que ces hectares aillent en priorité à de nouvelles installations, en cohérence avec ce qui s'est construit dans le mouvement en termes de soins. En termes de projet, c'est très diversifié aujourd'hui ce qu'on a. C'est autant du maraîchage, des vergers, des cultures céréalières, de l'élevage, etc. Je crois que l'idée, c'est que ça puisse servir aussi bien à des installations collectives hors cadre qu'à des gens qui veulent s'installer de manière plus classique, mais que ça reste en cohérence avec ce qui a été porté par ce mouvement, c'est-à-dire un soin des communs, un soin du vivant, une envie de solidarité, de partage, et puis d'inventer aussi des rapports à la production qui sortent un peu des échanges marchands.
Vous qui êtes né ici, Dominique Frénaud, et quand vous étiez petit, les cultures qu'on voit autour de nous, elles existaient à plus petite échelle, ça ressemblait à quoi ?
Ici, on est dans le bocage. Le bocage, c'est pas du tout une zone naturelle. C'est bien une zone qui a été construite par les paysans. Mmh. Et moi, mes aïeux sont arrivés ici il y a 5 générations. Ils ont défriché ces terres. C'est-à-dire que c'était des terres de landes, pleines de genêts, d'ajoncs. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait ici à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, ça a été construit. Ce bocage a été entretenu depuis par toutes les générations de paysans qui sont passés là. Et ce bocage est encore existant. Il a été détruit complètement en Vendée et il a été détruit dans beaucoup de régions de France.
Détruit pour faire quoi ?
Pour en faire des grandes plaines, la Beauce et tout ça. Et donc, des lessivages de terrain, des apports d'amendements énormes.
Pourquoi selon vous, c'est pas bien de faire ça ?
C'était un développement de l'agriculture à un moment donné, productiviste. Et il fallait, on a appris à nos agriculteurs. Moi, je suis allé à l'école d'agriculture. On nous a appris à faire cette agriculture-là.
Mais on n'arrête pas de dire qu'ici, c'est une zone humide. Et c'est facile, oui. C'est logique de cultiver sur une zone humide.
Non, alors on n'a pas beaucoup de culture. En fait, ici, c'est un bocage. Un bocage, c'est de l'herbe, c'est du pâturage. Et le peu de terres qui sont un peu meilleures, un peu plus sèches, un peu plus... Voilà. Eh bien, on fait quelques céréales dessus. Mais c'est une terre bocagère, une terre à herbe.
Alors, on a parlé des différentes générations qui se côtoient ici. Ceux qui sont des historiques, qui sont nés là. Ceux qui sont venus un peu plus tard comme Jean. Quelles sont vos relations avec les villages environnants, celui de Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est aussi un village, Eric, bref, les gens qui habitent là, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que vous êtes en relation avec eux ?
Oui, alors justement, on fait souvent, on est souvent pris en lien, donc entre le voisinage, les communes, même les référents de ces communes, les maires, les conseillers municipaux, et la ZAD par rapport au projet. Parce qu'il n'y a pas toujours de dialogue direct entre la ZAD et l'extérieur, et qu'on est souvent, nous, on va dire, on fait ce lien entre les populations et la ZAD pour expliquer aux uns quelles sont les contraintes qu'il y avait ici sur ces terrains et pour expliquer aux autres ce qui se crée ici sur Notre-Dame-des-Landes et ses c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Jean, vos rapports avec l'extérieur.
Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que toute une partie des personnes qui constituent ce mouvement, qui viennent aux assemblées, qui viennent aux chantiers collectifs, aux fêtes, en fait, c'est nos voisins, c'est des riverains, c'est les habitants de la Paclet, de Notre-Dame-des-Landes, de Vigneux, et puis des bourgs un peu plus éloignés. C'est des gens avec qui on a des rapports quotidiens. Il y a des gens qui nous comprennent moins, qui nous voient de loin, et puis il y a des gens qui participent encore hier. Il y avait des gens qui venaient réhabiliter des sentiers ou des trajets de sentiers sur la ZAD. Voilà, je pense que après, effectivement, dans le futur, ça va être central, les liens qu'on va continuer à entretenir avec ses voisins.
Véronique Robérod.
J'ai eu une discussion hier avec le monsieur, le taxi qui m'a amené jusqu'ici. Il disait le problème de la ZAD, surtout, c'est que ça a apporté les zadistes. C'est que les zadistes, aujourd'hui, à Nantes, voilà, on voit des gens qui sont systématiquement contre tout,
des
contre l'État.
Chien,
voilà. Donc ça, ils aimeraient bien que ça s'arrête.
Alors, je pense la particularité... On va dire que c'est on peut pas des gens qui essayent à un moment donné de vivre autrement, d'habiter autrement, de repenser le rapport au travail, au collectif. On voit bien que c'est un sujet clivant. Si c'était pas un sujet clivant aujourd'hui, la décision pour le gouvernement ne serait pas aussi difficile que ça à prendre. C'est une décision politique parce qu'il y a deux visions du monde qui s'affrontent. Il y a une position à laquelle on était habitué, qui est orientée sur la croissance, sur un certain rapport au consumérisme, à l'individualisme. Et à un moment donné, il y a des gens qui peuvent passer à un certain moment pour des utopistes, pour des rêveurs, pour des radicaux. Mais toujours est-il qu'on essaye concrètement de s'organiser autrement. Ça nous semble essentiel. Ça semble essentiel à tout un tas de personnes aujourd'hui. C'est forcé que ça pose des questions. C'est forcé que ce soit pas compris d'emblée par tout le monde. Et en même temps, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce que ce mouvement a produit de plus riche, c'est que c'est un mouvement très diversifié et intergénérationnel. Si c'était un mouvement d'anticapitalistes radicaux à proprement parler, on n'aurait pas 70 000 personnes qui sont prêtes à se mobiliser, comme ça a été le cas à diverses reprises. Et à un moment donné, pour nous, c'est notre plus grande richesse, c'est de pas s'enfermer, de pas penser à un ghetto alternatif, mais au contraire, de continuer à s'ouvrir et à faire ses rencontres.
Ouais, d'ailleurs, je confirme, dans cette bibliothèque, il commence à y avoir du public et il y a toutes les générations. Il y a tous les profils. Dominique Frénaud, ça veut dire que si d'aventure, dans quelques jours, le gouvernement dit finalement, on va pas le faire cet aéroport, et vous allez rester là, vous allez faire de l'agriculture traditionnelle, ou bien c'est quand même quelque chose qui a changé votre vie, et cette zone, vous voudriez qu'elle reste une zone un peu à part?
Alors, de toute façon, on n'en sortira pas intact de cette lutte. Ça fait 46 ans précisément que je l'ai sur moi, que je la prends, que je l'ai au-dessus de ma tête comme une épée de Damoclès. Mais en même temps, on en sort beaucoup plus riche. On a aussi, je pense, une évolution au niveau de l'agriculture. Il n'y a pas que au niveau de l'agriculture, mais il y a une évolution à tous les niveaux. Les têtes ont changé, bien sûr.
On se retrouve aux environs de 8h20 pour continuer à évoquer ce qui est en train de se dérouler ici sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On est au cœur de cette ZAD, en dessous de ce qui aurait été une tour de contrôle d'un aéroport, mais qui est en fait une tour assez ironique et assez sympathique.